Radio-Use.
Magnifique. Le lac bleu.
René Martinez.
Je vous ai indiqué comment vous pouvez y aller. Si le cœur vous en dit et si vos jambes me suivent, vous pouvez aller retrouver l'endroit où 12 contrebandiers ont explosé. Et ne me faites pas un procès si vous ne trouvez pas de traces de poudre. Puisqu'il a fait puisqu'il a détruit l'indice. Mais, si vous arrivez à ce lac bleu-là, vous allez voir autour des rochers amoncelés, éparpillés, comme s'ils avaient été fracassés par l'explosion. Avant, c'était des blocs énormes, et là, vous retrouvez des cailloux. C'est d'abord, c'est une preuve déjà de l'histoire, hein. Et c'est vrai que ces pierres-là, vous savez qu'on peut raconter toute l'histoire des Pyrénées uniquement à partir des pierres. On a toujours eu le culte des pierres dans les Pyrénées. On dit que lorsque les premiers hommes arrivèrent dans les Pyrénées, en faisant l'effort de se tenir debout, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient rêver aussi. Alors leurs rêves sombres sont allés se fixer sur les blocs d'ardoise et leurs rêves heureux sur les blocs de granit et de marbre. Et à condition de poser une oreille curieuse sur ces pierres, elles vous racontent des histoires plus vraies que tous les témoignages d'archives. Vous savez, ces pierres, ces créations lentes de la terre, de l'eau, du feu, ces pierres, premières armes, mes premières sculptures, premiers livres aussi. On a toujours eu, et d'un bout de la chaîne à l'autre, ce culte des pierres. Par exemple, dans la vallée de Luce, il y a les éclats de la raillée dans le cirque de Strumouze, et les conscrits, ou ceux qui étaient appelés sous Napoléon pour être tirés au sort, prenait un petit éclat de la raillée, c'était celui qui avait le plus de pouvoir, il le mettait dans la poche pour ne pas être tiré au sort. Et à la mobilisation de la guerre 39-45, les familles m'ont raconté que celles de là-bas, de la vallée, sont montées vers la raillée. On a demandé aux plus jeunes de prendre une pierre, de la donner à son père, pour que ça lui porte bonheur et aussi peut-être pour apporter quelque chose de son pays. Quelquefois, c'est publigué quand même, comme dans le Couserans en Ariège. Il y a deux pierres qui sont distantes à peu près de ça, mais elles bougent les pierres, vous disent les anciens là-bas. Les anciens vous disent que quand ils étaient jeunes, les pierres étaient écartées comme ça. La preuve, c'est qu'ils pouvaient courir. Peut-être qu'ils étaient plus minces, hein, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ils disent que ces pierres, elles bougent, elles se rapprochent. Et ils disent même que lorsqu'elles se toucheront, les filles sauteront au cou des garçons. Alors depuis le temps, les vieux y guettent. C'est jamais. Et puis, il y a aussi, dans la vallée du Biros, dans l'Ariège, « Que jette aux peiretos, jette aux amouretos ». Ce qui peut se traduire par « Qui jette des petites pierres, lance des vœux d'amour ». C'est au moment où les garçons sont un peu plus timides et puis les mots d'amour sont difficiles à dire, avec des lèvres tremblantes. Alors, quand il voyait une fille à qui il avait envie de dire des choses agréables, il lui lançait un petit caillou devant. Et la fille savait que ça valait vœux d'amour. Elle répondait ce qu'elle voulait. Mais j'ai dit une petite pierre. Hein. Et puis... les pierres les plus célèbres des Pyrénées, c'est quand même les pierres levées. C'est des pierres dressées, c'est des pierres qui sont comme ça, vous savez, qui sont toutes... on en a répertorié plus de 1500. Les lacs, il est plus facile de les regarder que de les compter. Eh bien, ces pierres levées, là, étaient très fréquentées. Elles étaient toutes entre 600 et 1500 mètres d'altitude. Il y en avait qui appartenaient à une vallée, d'autres qui étaient dans un village. Il y en a beaucoup. Elles étaient fréquentées par les femmes, les jeunes filles qui voulaient trouver un mari qui avait toutes les qualités dans l'année. Quelquefois, de faire plusieurs voyages. Hein. Il y avait des hommes aussi qui voulaient trouver l'épouse de leurs rêves. Eux aussi faisaient des voyages. Je ne sais pas qui devait en faire le plus. Il y avait les femmes qui attendaient un enfant pour que ça se passe bien et que les relevailles aussi se passent bien. Mais surtout, elles étaient fréquentées par les femmes qui à mal d'enfants, comme on disait, c'est-à-dire c'était les aînés d'une famille qui s'était mariée qui n'avait pas pu avoir d'enfant. C'était important d'avoir un enfant quand on était l'aîné, sinon la propriété allait se disperser. Alors, elles venaient là, et les pratiques étaient différentes selon les vallées. Mais en général, sur ces grandes pierres-là, il fallait glisser comme ça, et il fallait soulever leur robe, et la partie qui touchait la pierre devait être dénudée. Et quelquefois, comme à Luchon, il fallait glisser 7 fois. Ça prouve la belle qualité de peau des femmes des Pyrénées. Hein. Parce que dans d'autres vallées, on appelait ça l'écorchade. Et alors, il fallait glisser là comme ça pour avoir un enfant. Alors c'était important, hein, je vous l'ai dit, d'avoir un enfant, et puis même pour d'autres raisons. Vous savez, dans les grandes familles, avant, on disait l'aîné sera à l'armée, le cadet dans les ordres. Eh bien, les familles modestes de la vallée de Bethmal, où ça a été toujours des situations économiques très difficiles, lorsqu'ils avaient une fille, eh bien, on l'a destinée à être nourrice dans la ville au-dessus. Et pour être nourrice, il faut avoir eu un enfant, évidemment. Alors, ces filles allaient à la paire, glisser. Et lorsqu'on voyait quelquefois une femme qui attendait un enfant et qui n'avait point épousé, comme on disait, quand quelqu'un disait « Mais quel est le père ?» Eh bien, le plus vieux, le soir à la veillée, il disait « Qu'il y en a dans la paire ?» Elle est allée à la pierre et ça arrêtait tout commentaire. Alors, au-delà de l'anecdote, là, ce qui est important, c'est que ça voulait dire aussi, comme dans les contes populaires, ça voulait dire que cette fille, elle faisait partie de la communauté. C'était le secret de la communauté. Elle n'était pas rejetée. Alors, évidemment, quand... et ça date d'il y a longtemps. Alors, évidemment, si vous avez des grandes pierres comme ça, lisses, avec cette forme-là, quand les psychologues sont venus, ils se sont régalés. Nous, ça nous est égal, il faut bien que tout le monde vive. Hein. Mais ça a continué quand même. Et tellement que quelquefois, il fallait, comme dans la vallée du Larboust, il fallait rester 3 jours là, les femmes, vous voyez. Alors les machentolengos, vous savez, les mauvaises langues, parce que je dois avouer qu'il y en a dans les Pyrénées, hein. Mauvaise. Il y en a moins, hein, maintenant, hein. Depuis que les vallées se sont dépeuplées, il y en a moins, hein. Alors, les machentolengos disaient que la vertu de ces pierres était améliorée par le concours de spécimens mâles qui rôdaient, là, dans ces 3 nuits, vous savez, toujours prêts à rendre service, hein. Mais les machentolengos, hein, il faut les laisser faire. Et l'Église, évidemment, a trouvé que c'était des comportements païens et a lutté. Dans le concile d'Arles de 452, il y avait déjà quelque chose qui disait qu'il fallait faire cesser ces pratiques païennes. Et au XVIIIe siècle, en Ariège, si une femme avait glissé sur la pierre, il fallait qu'elle le confesse. Hein ? Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la vallée de Luchon. Si les pierres ont tant de pouvoir, c'est qu'elles sont d'origine divine. C'est écrit à Luchon. Les Pyrénées ont été modelées par Dieu lui-même, alors qu'il a laissé à ses domestiques le soin de faire les Carpates et l'Himalaya, d'où le relief inachevé est beaucoup moins hospitalier. Mais je vais revenir à mon histoire, parce que je n'ai pas fini de vous raconter l'histoire des contrebandiers. Je dois vous dire que... quand on recueille comme ça les contes, s'il y a une catastrophe, hein, c'est immense, qu'il n'y a aucun survivant, c'est nuit close sur l'événement. Hein. Mais quand dans mon histoire, un seul en réchappe, le 13e, il peut nous apporter la nouvelle et nous dire le conte, et ça c'est la joie de l'amateur. Parce que je ne vous dissimule pas davantage que c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Par modestie, il a préféré garder l'anonymat. Hein. Et pourtant, il a fait quelque chose à la fois étonnant et détonnant quand même. Hein. Mais il est resté comme ça, dans l'anonymat, comme beaucoup de Pyrénéens qui ont fait aussi des choses. Hein. L'anonymat, personne ne parle de l'abbé de Bidassoué, par exemple, qui était curé d'Asparin, au Pays Basque. Il y avait des problèmes avec sa hiérarchie. L'évêque de Bayonne. Tous les matins, il prenait le fusil, il tirait deux coups, il disait « c'est pour l'évêque ». Et tout ça, parce que tout ça, à cause du choix des gouvernantes. Il fallait qu'elle ait l'âge canonique. 40 ans, lui, il en avait pris deux de 20 ans chacune. Et l'évêque ne voulait pas. Ce sont comme ça des gens qui ont... Le sire de Castelbon, non plus, on n'en parle pas. Surtout, pas lui. Mais... Le forgeron de Caverne. Vous savez, le château de Mauvezin, entre Caverne et Bagnères du Bigorre. On dit qu'il avait été, habité par Gaston de Foix. Et on dit que de temps en temps, une femme apparaît sur les hauts comme ça et qu'elle guette le retour de Gaston Phébus. Depuis la chapelle de l'Escaladie ou en bas. Et puis, à ce moment-là, le château était occupé par le sire de Castelbon, le triste sire d'ailleurs, d'après ce qu'on en sait. Et il avait épousé la belle Léona. Alors, dans toutes les archives, on nous dit la belle Léona. On ne la décrit jamais. C'est bien, hein, chacun peut l'imaginer comme il veut. La belle Léona, elle devait être belle. Seulement, voilà, quand il partait dans les expéditions ou autres, il craignait qu'on lui raconte des chansons de gestes de trop près. Alors, on fait comme quand on a un bijou, on le met sous clé. Et là, c'était une ceinture de chasteté. Alors, il a fait venir le forgeron de Carvel pour faire la ceinture. Le forgeron, il est venu avec tout son attirail, il l'a fait, mais il fallait prendre les mesures. Alors, la belle Léona s'est dévêtue. Vous savez que dans les contes pyrénéens, on ne dit jamais une femme nue. Et on dit une femme simplement vêtue de ses longs cheveux qui tombent librement sur son dos. Et alors, le forgeron de Cardenne, quand il a eu la belle Léona simplement vêtue de ses longs cheveux qui tombaient librement sur son dos, il a eu un coup de sang. Mais alors, de forgeron. Et au lieu d'abattre son marteau sur la clume et la tôle, il a abattu sur la tête du sire de Castelbon qui assistait de près à l'opération. C'est certainement l'épisode le plus appuyé de féminisme qu'on ait pour l'époque, en plus. Hein. Et Gaïe Mariol, encore un qu'on ne connaît pas beaucoup. Gaïe Mariol était soldat de Napoléon. Si vous rentrez en ce moment à la mairie de Campan, vous avez... À l'entrée, un grand portrait avec Gaïe Mariol, qui était un soldat de l'an 2, et qui a fait un exploit. En 1807, sur les bords du Niémen, les deux empereurs, Alexandre et Napoléon, devaient se rencontrer pour signer le traité de Tilsit, pour le préparer. Et l'autre empereur n'était pas là, il y avait que Napoléon qui est arrivé, et Gaïe Mariol faisait partie de la garde rapprochée. Et pour honorer l'empereur, il s'est mis à lui présenter les armes, mais pas avec un fusil, avec un canon, comme ça. Les historiens nous disent que le plus petit pesait 300 kilos. Alors Napoléon, je ne sais pas s'il lui a pincé l'oreille, mais en tout cas, il lui a accordé, et on peut le constater, on l'a dans les chroniques, ça y est, c'est écrit, 2 mois de solde supplémentaires pour exploits sur les bords du Niémen. 1807. Et il n'y avait pas eu de guerre. C'était bien cet exploit-là. Hein. Et c'est depuis qu'on dit faire le Mariol. Heureusement qu'il y a les contes des Pyrénées pour enrichir la langue française. Hein. Et le fossoyeur de Gavarnie, non ? Qu'on connaît encore au moins, lui, pourtant. Dans l'église de Gavarnie, qui est fermée maintenant, mais pour demander la clé, on peut aller visiter. Il se trouve d'abord une vierge avec une gourde. C'est original, la gourde, quand même, hein, sur les vierges, là, comme ça. Parce que d'une gourde, on ne met jamais de l'eau hein, dedans. Il paraît que c'était pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. En passant, c'était mieux de les accueillir comme ça, qu'avec de l'eau. Mais surtout, il y a une vitrine où se trouvent sept crânes de Templiers, massacrés en 1415. Si vous regardez des livres précis, là, vous allez voir cette photo des sept crânes de Templiers. Mais comme on lui faisait remarquer au fossoyeur de Gavarnie qui était chargé de l'entretien, que ces crânes qui avaient 700 ou 800 ans, ils étaient en parfait état, il a répondu « Quand ils sont trop vieux, je les change. » Je ne sais pas quand a été faite la photo qui est sur les livres. Donc vous voyez que... Hein? Bon, mais c'est toujours une histoire que je n'ai pas fini de vous raconter, qui est une histoire toute simple. Elle est aussi simple que ça. Hein? Vous savez, j'aurais pu la compliquer, comme on fait dans les romans, c'est sûr. Par exemple, le 13e contrebandier, en remontant le sentier jusqu'à l'origine de la traînée, il aurait pu faire des rencontres. Hein? Et il aurait pu rencontrer, je ne sais pas moi, un dragon ou un serpent volant, parce qu'il y en avait avant, hein, dans les Pyrénées. On a un témoignage quand même de Auger de Montfaucon, qui était évêque, qui a été canonisé, c'est Saint-Lizier. C'est quand même un témoin digne de foi, non? Eh bien, il raconte qu'un jour, en revenant d'Espagne, il a eu le passage obstrué par un dragon volant. Il ne s'est pas inquiété, il a pris une flèche. Alors vous allez me dire, pourquoi un évêque qui vient de faire des vocations, il avait une flèche? Je ne sais pas. Hein, il a pris une flèche, il l'a lancée, ça a traversé. Le dragon, elle est venue se planter sur une pierre que les guides vous montrent, la roque traucal, la roque trou, il n'y a plus la flèche. Hein, et on vous le raconte encore, là. Quelquefois les dragons étaient encore plus importants, il fallait prendre d'autres moyens, comme ce berger malin. Il y avait un dragon énorme, il ouvrait sa grande gueule, et les moutons, comme ça, semblaient attirés. Et il avalait comme ça tout. Alors lui, il a eu l'idée de prendre une peau de vache, de la remplir de poudre à canon de la variété noire et grain fin, de mettre une mèche, d'y mettre le feu et de la mettre devant l'antre du dragon. Le dragon, il est sorti, lui, vous savez, cuit réduit quand même. Hein. Alors, il a ouvert la gueule, il a pris tout ça, et... Ah, ça a explosé, ça s'est répercuté contre les parois des montagnes, ça roulait par la vallée, ça remontait les gorges. Ça vous rappelle rien, ça? Vous voyez que mon 13e contrebandier, c'était un Pyrénéen, on l'avait dû lui raconter, ça. Hein. Bon, mais la fascination des serpents existe toujours, et dans les Pyrénées, les bergers sculptent sur leur canne un serpent. Ils disent que lorsqu'ils en voient un, ils le font onduler, et le serpent se trouve figé pour avoir quelque chose qui bouge comme eux. Bon. Mais je vous rassure, et maintenant vous pouvez aller dans les Pyrénées, il n'y a plus de dragons. Ils ont disparu. Mais je peux vous dire quand même que s'ils ont disparu, c'est qu'ils ont existé. Mais le 13e contrebandier, en descendant. Il n'a pas trouvé de dragon, il n'a pas trouvé de géant non plus. Parce qu'il y avait des géants, hein. Il y avait des géants. Les Irèdes en Ariège, il y avait les Pélutes au Béarn, les Prouzouzes en Bigorre et les Bécus dans la vallée de la Barège. C'est déjà. On disait, les Prouzouzes par exemple de la Bigorre, on dit que ils étaient capables de rentrer tout le foin d'un pré en une fois. On ne donne pas la dimension du pré, mais enfin, vous pouvez l'imaginer. On disait que d'une main, ils étaient capables de relever un pont qui s'effondrait. Et surtout, de porter sur leur dos un âne récalcitrant. C'est récalcitrant qui est important. Et bien, il n'en a pas rencontré. Il y a d'autres histoires sur les Bécutes, dans la vallée de Barège. Les Bécutes, c'était des géants, mais ils avaient des troupeaux qui avait des cornes d'or. Alors, évidemment, ça faisait envie. Et un jour, un garçon et une fille qui étaient des cadets, qui n'héritaient de rien, qui voulaient vivre ensemble, voulaient se construire une maison quelque part. C'est pour ça que tous les villages pyrénéens les plus hauts étaient construits par des cadets. Ils ne pouvaient pas descendre. ils allaient toujours construire le village plus haut. Et alors, ces cornes d'or leur faisaient envie. Alors, ils ont attendu que les Bécudes ne soient pas là. Ils sont introduits dans la grotte. Et à ce moment-là, un Bécude s'est arrivé. Alors, il a pris la jeune fille, il l'a avalée. Vous voyez la taille. Ce moment, il l'a régurgité tout de suite parce qu'elle avait une croix chrétienne. Il ne pouvait pas digérer une chrétienne. Et le garçon, pendant ce temps, s'est échappé. Alors, je sais que ce que vous pensez, ce garçon des Pyrénées, ne sont pas très courageux. Hein. Oui, mais je vous fais remarquer que s'il était resté, s'il s'était fait avaler par le dragon, qui nous aurait pu nous raconter l'histoire? Il faut toujours qu'il y en ait un qui en réchappe. Hein. Bon, mais ce jour-là, il n'y avait pas de géants, il n'y en a plus. Vous pouvez y aller, mais encore pareil. Hein. S'ils ont disparu, c'est que... Je ne vous le fais pas dire, hein. Donc voilà, il a, quitte à vous décevoir, le 13e contrebandier, il n'a rencontré ni dragon, ni géant, ni touriste non plus. Pourtant, il y en a, hein. Pourtant, il y en a des touristes à les Pyrénées. Vous savez, moi, je suis de Bagnères du Bigorre, ce qui veut dire ben, Bagnères, ben, hein, en Occitan. Ça veut dire qu'il y a des eaux thermales, hein. On en a 50. On n'en a gardé que 24 pour les touristes. Alors là, si vous regardez ça, vous avez une évolution de l'humanité. Vous savez, vous avez un chien qui voit de l'eau, ici, vôtre, s'il a des plumes, il illustre et tout. C'est ordinaire, quoi, hein, vulgaire. Tandis que nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait quelque chose qui était une véritable révolution. Simplement, les eaux, on les a appelées thermales. Elles ont été donc chargées de soigner l'homme, la femme et l'enfant. Il suffisait de transformer le touriste en curiste et d'en fixer le prix. C'est pas compliqué. Et alors, c'est pour ça qu'il vient tant de touristes pour prendre les eaux. Alors, à Bagnères, vous savez, on les appelle les couillesses, les touristes. Ce qui veut bien de l'occitan, couillat, qui veut dire tondre. On parle de leur porte-monnaie, évidemment, hein, hein, parce que Bagnères est la ville la plus honnête que je connaisse, hein, parce que nous, au moins, on le dit. Mais on ne leur dit pas, eux, sinon ils iraient à Luchon ou c'est pire. Hein. Et alors, à Bagnères, effectivement, l'odeur d'une violette procure la jouissance de plusieurs printemps. Et les couillesses, ils viennent pour prendre les eaux, comme on dit. Hein. Je ne sais pas si vous savez, vous êtes passé par là, mais une cure dans les eaux des Pyrénées, c'est quelque chose, quand même. Hein. Peut-vous vous frapper avec des jets jusqu'à vous mettre comme une crêpe, et une fois que vous êtes bien mouillé, il faut que vous soyez aussi mouillé de l'intérieur. Donc il faut boire 1 ou 2 litres d'eau. Alors, un exemple. Si vous prenez une eau qui n'est pas des Pyrénées, Saint-Yor, par exemple. Si vous regardez dans le petit papier d'explication, il y a 6 grammes, hein, c'est un nom, pas des grammes, 6 éléments, là, qui sont tout ce qu'on y met, vous savez, du fer, du machin, du manganèse, tout ça. 6. Si vous prenez l'eau de salice du salat, avec les mêmes unités, il y en a 300. Hein, et c'est la même composition que le béton armé. Hein. Alors, en général, les curistes, ils doivent en boire 2 litres. Alors, si vous trouvez dans les Pyrénées, pendant l'été, des gens qui marchent un peu renfrognés et tout, croyez pas qu'ils soient mécontents. Non, mais ils en ont beaucoup sur l'estomac, quoi. Hein. Oui. Et pendant ce temps, ils croisent des Pyrénéens qui, eux aussi, ont le ventre rebondi, mais grâce à la tourte, aux massacanates et aux confits qu'ils ont pu se payer grâce aux courageux curistes. Hein. C'est comme ça. Mais je ne suis pas chauvin, il n'y a pas qu'à Bagnères. Toutes les eaux des Pyrénées sont bonnes. On y soigne de tout. Alors à Bagnères, évidemment, Rabelais, Montaigne ont soigné leurs vessies. Voilà. Et aussi, Jeanne d'Albret, qui est venue enchantée, et tout le monde dit que c'est à cause de ça qu'elle a mis au monde un si beau petit Henri IV, qu'elle a envoyé encore à Bagnères prendre une cure parce qu'il était tombé de cheval, qui lui, plus tard, a envoyé une de ses favorites parce que malencontreusement, elle attendait un enfant de lui. Elle soigne tout. Les eaux des Pyrénées. Vous savez que on a fait beaucoup de progrès dans la médecine des eaux depuis longtemps. Vous savez aussi que devant chaque ville, il y a des pancartes qui montrent les vertus des eaux. À Bagnères, il y a « Rééduque l'accidenté, équilibre le nerveux ». Bien qu'à Bagnères, nous sommes tous équilibristes, comme tout le monde. Et aux eaux bonnes, dans le Béarn, ils avaient mis des pancartes comme ça. Vous savez ce qu'il y avait dans les pancartes ? Femmes, enfants, traumatisme. Ils ont dû l'enlever. C'est vrai, ça, hein ? C'est vrai. Femmes, enfants, traumatisme. Enfin, quand même, c'est exagéré. Alors, ils ont dû les enlever. Mais c'est vrai que ça soigne tout. Regardez, à ces mêmes eaux bonnes, hein, aux eaux bonnes, on a dans les textes que sous François Ier, ces eaux soignaient les blessures dues aux arquebuses. Et tous les soldats allaient là prendre une cure pour calmer que ces arquebusades ne s'infectent pas. Eh bien, ces mêmes eaux, maintenant, les mêmes, elles soignent les maladies de la gorge. Quand je vous disais qu'on a fait beaucoup dans le progrès, hein, dans le progrès, hein, les mêmes eaux, hein, elles soignent tout. Et vous en avez encore d'autres qui sont... Verlus, Saint-Sauveur, les imprégnadaires, les eaux fertilisantes. Oui, parce que si c'était les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants qui glissaient sur la pierre, c'était le peuple, là. Hein ? Quand on arrivait, par exemple, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle n'allait pas glisser, vous ne voyez pas une impératrice glisser sur la pierre. Alors, elle allait prendre une cure à Saint-Sauveur parce que ça s'appelait les eaux imprégnadaires. La première année, elle y est allée. Et quelques mois après, elle n'a toujours pas eu d'enfant. Alors, elle y est allée une deuxième fois, mais il n'y avait pas que la cure qu'elle prenait. Il y avait des balles, il y avait des fêtes, il y avait des choses. Bien. Elle est venue quelques mois après, elle a mis au monde le prince impérial. Hein évidemment, les Machentolengos, mais cette fois, les Machentolengos de Paris, disaient que le prince impérial ne ressemblait pas beaucoup à l'empereur. Et, oh, ils vont quand même pas faire des miracles, les autres. Et ça suffit déjà comme ça. D'autant plus que si vous regardez les documents, depuis, à Saint-Sauveur, qu'est-ce qu'il y a ? Un établissement gynécologique, grâce à l'impératrice Eugénie. Vous savez, celle qui venait 8 jours par an à Biarritz et qui a fait construire un pied-à-terre de 300 chambres, dont il ne savait plus que faire, d'ailleurs. Alors, vous voyez, ça soigne tout. Hein, il faut pas. Il y avait à Axe-les-Thermes, l'eau est tellement chaude qu'on la recueille comme ça, on y met 2 gousses d'ail, un peu d'huile d'olive, et la soupe est faite. Comme elle est un peu sulfureuse et tout, il faut quand même avoir un estomac d'ariégeois, hein, pour le faire. Mais fait, ça peut se faire. Tout à l'heure, je vous ai juste dit une parenthèse sur les femmes des Pyrénées qui, évidemment, ont protesté. Hein, femmes, enfants, traumatisme. Ça, c'est vieux chez les femmes des Pyrénées. Il y a un livre qui s'appelle « Femmes pyrénéennes ». Si vous êtes sceptique, lisez-le. Je ne vous raconte pas des menteries. En 1792, le droit de vote a été accordé aux hommes seulement. Et on ne peut l'exercer que plus tard. Et vous savez, dans les Pyrénées, depuis le XIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle les jurats, c'est-à-dire les aînés des familles, garçons ou filles, élisaient un petit groupe qui était chargé de régler les problèmes de la communauté, comme les lieux de pacage et autres. Et là, qu'on soit femme ou homme, on était électeur et éligible. Ce qui fait que, quand les femmes des Pyrénées sont aperçues qu'il y avait le droit de vote rien qu'aux hommes, qu'est-ce que c'est que ça ? Elles ont fait une manifestation dont une est énorme, c'est passé à Saint-Gaudens. On a le détail de tout ça. Les femmes ont été chargées à cheval. Les gendarmes étaient à cheval. Et à un moment donné, des femmes ont pris un gendarme sur le cheval, l'ont descendu, il y en a une qui lui a mordu l'oreille. Les autres gendarmes ont réagi, on les a capturés, et elles ont été jugées le lendemain. Et là, on a les minutes du tribunal. Le gendarme est rentré avec le pansement sur l'oreille, puis la femme, quand la femme elle a vu le gendarme, elle lui a dit, si tu... ah, elle lui a dit évidemment en occitan, si tu dis que c'est moi, c'est pas les oreilles qui te manquera à la fin. Ça y est dans les minutes du tribunal, ça. Et alors, évidemment, le juge a dit au gendarme, reconnaissez-vous cette femme comme celle qui vous a mordu? Il y avait beaucoup de monde. Peut-être, je sais pas. Elle a été acquittée. Vous voyez que... Bon. Mais je... Cette histoire de contrebandier, j'ai toujours pas fini de vous la raconter. Mais le 13e contrebandier, il a rencontré donc ni serpent, ni géant, ni touriste. On pourrait la compliquer aussi avec les 12 autres là-bas, et les 12 qui sont assis au bord du lac. C'est vrai. Vous vous rappelez qu'ils sont assis au bord du lac sur leur sac, hein, en attendant que l'ingénieux ait trouvé l'origine de la trace. Et il s'est plongé le front, se désaltéré, respiré le silence, comme aiment à le faire les montagnards. Mais aucun n'a jeté un petit caillou dans l'eau du lac. Aucun. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y avait pas des petits cailloux, puisque l'explosion n'avait pas eu lieu. Il n'y avait que des gros bords. Et la deuxième, parce qu'il savait qu'il ne faut jamais jeter un caillou dans un lac, parce que ça irrite les fées qui y vivent. Ces fées qui surgissent des blanches brumes du lac, comme ça, simplement vêtues de leurs longs cheveux qui tombent librement sur leur dos. Et vous savez, les bergers, là-bas, ils n'en voient pas beaucoup. Hein. Alors, ils les guettent. Et les femmes, les bergers, les fées, elles souhaitent devenir femmes, comme si elles avaient reçu une malédiction. Elle préfère être femme. Et pour devenir femme, il faut épouser un humain. Hein? Mais les hommes, ils ne se précipitaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas être menés à la baguette. Je ne sais pas. En tout cas, ils ne se précipitaient pas. Et les bergers, comme quand même ils les trouvaient belles, ils essayaient de les voir. Mais il ne fallait pas être vu. Hein? Parce que sinon, vous deveniez infadats, comme on a dit. Hein? Vous aviez le mal d'amour, ces bergers. Infadas, qui a entre parenthèses donné fada, et encore heureusement qu'il y a encore. Et, ou bien alors, s'ils étaient surpris par les fées, ils étaient transformés en statues de pierre. Voilà pourquoi il y a autour des lacs des Pyrénées tant de blocs à forme humaine. Sauf au lac bleu, parce qu'ils ont sauté avec mon explosion. Hein. Faut suivre toujours, hein. Eh bien non, les fées d'ailleurs, les fées, elles ont apporté beaucoup de choses aux hommes. On dit que c'est d'elles que vient la formule du levain pour faire le pain. On dit aussi que ce sont elles qui ont appris aux hommes à souder, à braser le fer. Et on dit aussi que c'est elles qui ont donné aux hommes l'idée d'une scie en leur disant « il suffit de regarder le bord d'une feuille de châtaignier ». Et les hommes auraient construit la scie. Après, en regardant ça. Et les fées, dans les Pyrénées, il y a des sentiers qui sont dans des zones tellement inaccessibles qu'elles n'ont pu être dessinées et faites que par des fées. Évidemment, elles ne faisaient pas avec du matériel comme ça. Hein. Elles faisaient avec des incantations qui changeaient d'une vallée à l'autre. Par exemple, et à condition qu'elles ne soient ni vues ni dérangées. Par exemple, Pierrick Pierraille, Pierrick Pierraille, Pierrick Pierraille. Et le sentier avançait. Et un jour, quand j'étais en train de faire ça, il y avait un touriste un peu plus bas qui ramassait des myrtilles. Parce qu'on leur a appris à les distinguer. Alors, il ramassait des myrtilles, il a entendu Pierrick Pierraille, Pierrick Pierraille, Pierrick. Alors, il en a eu assez au bout d'un moment, il a dit pourquoi pas Merdig Merdaille. Elles ont arrêté tout, parce que d'abord, elles ne veulent pas être dérangées, et elles n'aiment pas du tout la vulgarité. Ce qui fait qu'elles ont arrêté là, et c'est pour ça que dans les Pyrénées, il y a tant de sentiers qui n'ont jamais été terminés. Bon, mais je passe à l'histoire des contrebandiers que je n'ai pas fini de vous raconter. Bon, j'y pense, au fait. Si vous êtes féru de légendes régionales, vous devez être étonné qu'il n'y ait pas un ours. Hein? Alors, je ne peux pas m'étendre là, parce que vous avez vu, pour la polémique sur les ours, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui... Le dernier truc que je viens d'apprendre, c'est que Carla Bruni est marraine d'un ours. Comme si ça va arranger les choses, ça. Comme si elle n'en avait pas assez avec celui qu'elle a déjà. Alors, en tout cas, il y a... Moi, j'ai vu un berger il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il avait vu l'ours qui était marrainé par Carla Bruni. Il m'a dit, quand je lui ai dit, ça ne lui a rien fait. C'est une bête, et après tout. Hein. Bon, et ça, je ne sais pas comment ça peut s'arranger. Hein. C'est très compliqué. Mais en tout cas, le 13e contrebandier, c'est vrai qu'en redescendant à l'origine de la traînée, il aurait pu rencontrer un ours. Mais les montreurs d'ours du 19e siècle de l'Ariège nous disent que c'est quelqu'un de mystérieux, qui n'a pas les variations de la face, de la queue comme les autres fauves, et qu'on ne sait véritablement pas ce qu'il pense, un ours. Et alors, je pense qu'il aurait eu du mal, beaucoup, le 13e, à le convaincre d'aller détruire l'indice à sa place. Hein ? Et s'il l'avait fait, s'il y était arrivé, le 13e serait remonté là-haut, et lui aussi... Il n'y aurait eu personne pour nous raconter l'histoire, donc il n'y aurait pas eu d'histoire. Eh bien, il n'y avait pas d'ours. Mais au fait, j'y pense. Je vois pourquoi vous n'aviez pas beaucoup de compassion pour ces pauvres 12. Je ne vous avais pas raconté l'épisode des corbeaux. Les 12 contrebandiers qui étaient assis sur leur sac, ils regardaient l'eau. Où les sommets avoisinants se dessinaient, mais à l'envers, vous savez. Et la transparence de l'eau leur permettait de voir les algues au fond. Et ils étaient intrigués parce qu'il y avait deux corbeaux qui volaient là au-dessus du lac, ils les voyaient comme s'ils volaient en bas. Vous connaissez cette. Hein, particulièrement nette dans les Pyrénées. Hein. Alors, c'est au moment précis, c'est au moment précis. Ils regardaient voler les corbeaux, que eux aussi volèrent, mais avec éclat. C'était le détail que j'avais oublié pour vous convaincre. Et puis, franchement, hein, il ne vous en coûte pas grand-chose de la croire, cette histoire. Merci. Vous êtes disponible pour une autre ? Courte, courte, hein. Et là, vous parlez des ours. Bon, vous savez que je ne sais pas dans plusieurs années s'il y aura des ours, s'il n'y en aura pas. Et on ne sait pas. Ce qu'on est sûr, s'il restera les légendes et les contes sur les ours. C'est peut-être la seule chose que nous aurons. Hein ? Il y avait une fois un petit village des Pyrénées. Au-dessus du village, un petit bois. Et dans ce bois, il y avait une femme du village qui allait s'y promener au printemps pour cueillir des bouquets, en été pour cueillir des framboises et des fraises, des châtaignes et des champignons en automne et des brindilles en toute saison. Mais il existe en montagne une herbe qui s'appelle l'herbe d'égarement. Les animaux l'évitent, mais les hommes et les femmes ne peuvent pas toujours l'éviter. Et cette femme, ce jour-là, cette jeune femme, elle a mis le pied sur l'herbe d'égarement. Alors elle a erré comme ça jusqu'au soir. Et un ours est passé par là. La prise, elle l'a amené avec lui dans sa tute. Et là, ils ont fait le petit, puisque au printemps suivant, toujours dans la tute, elle a mis au monde un enfant qui était très duveteux. Que la mère a trouvé évidemment le plus beau du monde. Et le père ours s'est occupé de cette femme et de son petit, et il allait leur chercher des provisions. Mais il avait bien soin, quand il partait, de mettre une grande lose à l'ouverture de la tute pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Et alors la mère, là, parlait, a appris à l'enfant à parler, de lui, du village où elle était. Elle lui expliquait ce que c'était l'école, ce que c'était tout ça. Et l'enfant lui a dit, quand on sera assez fort, que le père ne sera pas là, on poussera la loze et on s'échappera. Et on dit que c'est lorsque Jean a eu 7 ans qu'ils ont pu faire cela. Et alors ils se sont échappés, ils ont couru vers le village. On dit que quand le père ours s'en est aperçu, il est revenu dans sa tute et on a entendu des lamentations qui ont duré une semaine. Mais la femme a été un peu déçue parce que dans le village, on ne l'avait pas vue depuis 7 ans. Et puis avec un enfant qui n'était pas comme les autres. Et on leur a prié d'aller vivre dans une bergerie un peu à l'écart du village. Mais la mère a envoyé Jean à l'école. Et Jean, c'était un robuste. Vous savez qu'à ce moment-là, chaque enfant devait amener les bûches pour le poêle, pour la journée. Et l'hiver, eh bien, Jean, il amenait un arbre sous chaque bras, comme ça. Il était gentil, toujours pour rendre service, mais on se moquait de lui. Et les enfants se moquaient. Les enfants se moquaient tout autant que les adultes, sinon plus, parce qu'il ne leur ressemblait pas. Et il a grandi, Jean. Et un jour, il a dit à sa mère, « J'aimerais partir pour apprendre un métier et parcourir le monde. » Elle lui a dit, « Eh ben, pars. » Marche aujourd'hui, marche demain, à la fin du compte, il aura fait du chemin. Et sur le bord du chemin, il a trouvé un atelier de forgeron. Il a demandé, « Maître, est-ce que vous pourriez me prendre comme apprenti ?» Le maître, voyant le gabarit, a dit, « Oui, oui. » Pose ton sac et rentre. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, il a pris avec les pinces un peu de fer qui était dans les braises, il l'a mis sur l'enclume et Jean a frappé et l'enclume s'est enfoncée dans le sol. Bon début, lui dit le maître. Et Jean, un peu gêné, avec deux doigts, comme nous on le ferait dans le radis, il a relevé l'enclume. Et il est resté là quelque temps, mais alors il frappait tellement fort qu'il jamais y avait eu autant d'éclats. Et c'était de la matière perdue. Et alors le maître lui a dit, tu vois, au bout d'un certain temps, quand il y avait des éclats partout, je crois que tu as fini ton apprentissage. Et Jean a dit, est-ce que je peux prendre tous les éclats qu'il y a, les forger, en faire une canne, et ce sera ce que j'emporterai. Il lui a laissé, il a pris, il a fait ce qu'il a dit, et on dit qu'il a pris une canne de 6 quintaux. 6 quintaux de l'époque, mais il faisait 50 kilos quand même chacun. Et il est parti, Jean, avec 6 quintaux. Marche aujourd'hui, marche demain, à la fin du compte, il aura fait du chemin. Et cette fois, sur le bord de chemin, il a rencontré un château tout illuminé. Le pont-levis était baissé, alors il est passé, il est entré dans le château en tapant sur sa canne et en criant « Il y a quelqu'un ?» Aucune réponse. Alors, par instinct, parce qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas mangé, il s'est retrouvé à la cuisine. Et là, alors, le grand toupie qui brûlait, un agneau à la broche, la table était mise, pain, vin, rien n'y manquait. Il a soulevé le toupie, c'était une garbure qui mijotait. Ça lui a ouvert l'appétit. Alors, il s'est mis à manger. Et qui d'ordine et réciproquement, il a passé une excellente nuit, le ventre rebondit. Le lendemain matin, il a encore un creux, Jean. C'était le petit déjeuner. C'est vrai qu'une garbure et un agneau à la broche, ça ne se mange pas comme un œuf à la coque. Hein. Mais Jean, il s'est dit, mais de là à en laisser. Hein. Et alors, il a commencé à déjeuner avec les restes de la veille. Et alors, au moment qu'il déjeunait, à un moment donné, sont tombés de la cheminée, des bras, des jambes, une tête, un tronc. Tout ça s'est reconstitué et un homme pas du tout sympathique qui est là, il fait « Jean, allume-moi la pipe. » Jean, il a continué à manger. « Allume-moi la pipe ou il va t'en cuire. » Et Jean lui a dit hé, carotté, escoute aux éploies, tais-toi et va écouter s'il pleut. » Et l'homme, en colère, a sauté sur Jean. Mais Jean avait toujours sa canne et il a touché la canne, il l'a pris par la barbe et il l'a envoyé par-dessus lui comme nous on l'aurait fait d'un noyau d'abricot. Ça a mis fin à la conversation. Jean a continué. Puis au bout d'un moment, l'homme s'est réveillé en disant, Jean, alors il a dit, tu veux encore toucher de ma canne? Non, 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 non. Si tu me laisses la vie sauve, je te donnerai le secret du château. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai trois femmes dans les caves que je veux vendre à de riches seigneurs comme femmes ou comme esclaves. Si tu veux, elles sont à toi. Jean, il a dit, on va voir. Il est parti avec sa canne, il est allé avec l'homme et effectivement, il y avait trois femmes enchaînées. On a détaché les cadenas et Jean a dit, je suis Jean de l'Ours, je ne cherche ni femme ni esclave. Il les a prises toutes les trois et les a remontées dans la cour du château. Et là, il les a posées et elles l'ont regardé pour la première fois. Elles lui ont sauté au cou pour le remercier. Il s'est évanoui, Jean. Il n'y avait pas l'habitude, hein. Elles l'ont ranimé avec tant de douceur qu'il s'est évanoui de nouveau, Jean. Parce qu'il ne savait pas, c'était la première fois. Si vous l'aviez regardé, vous ne l'auriez pas reconnu, Jean. Il était beaucoup moins duveteux. Il y avait des sources claires dans ses yeux. Il ne savait pas, Jean, il ne savait pas que un homme est toujours un ours jusqu'à ce qu'il se soit vu dans les yeux d'une femme. C'est un conte, hein. Et alors, ils sont partis tous les trois, bras dessus, bras dessous. Ce qu'ils firent, le comte ne le dit pas. Mais on sait que Jean a vécu des aventures à travers le monde. Mais comme tous les Pyrénéens est noyé de leur montagne natale, il a eu envie de revenir dans les Pyrénées pour voir sa mère, pour voir le village et peut-être la tute où il était né, et le père peut-être. Et quand il est arrivé dans la vallée, on lui a dit que sa mère était morte. Alors, brisé de chagrin, il s'est couché et il s'est endormi. Mais alors, il s'est endormi pour de bon. On dit que le sol s'est ouvert, là, pour l'ensevelir et le laisser sereinement et éternellement. Marche aujourd'hui, marche demain, c'est la fin du conte. Il a terminé son chemin. Et moi, mes histoires. Merci.